Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les fresques ornant la voûte de la chapelle Sixtine ont 500 ans aujourd'hui et Franck Ferrand n'a pas voulu laisser passer un tel anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ces fresques de Michel-Ange comptent parmi les plus célèbres du monde et ce n'est que justice. Alors il m'a paru que l'occasion était trop belle pour passer à côté d'un artiste immense, quasi surhumain, qui aura accompli l'exploit d'être à la fois un très grand peintre et un très grand sculpteur, mais aussi, disons-le, un architecte et même un poète.
C'est un sentiment, mais voilà encore une émission qui va caracoler en tête des podcasts.
Ben j'espère bien, Julia, c'est tous les vœux que je forme. J'espère aussi que les auditeurs seront nombreux à nous écouter en direct. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer via Internet vos remarques et vos questions. Mon invité, Serge Lega, va se faire une joie de vous répondre. Il est ce qu'on appelle communément un puits de science.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il a fallu se lever tôt et circuler dans Rome avant le lever du soleil, un café serré dans le bistrot qui commande l'accès principal au musée du Vatican. Quelque obscur arrangement, j'ai pas trop voulu savoir, de notre cicérone avec les gardiens de la porte. Et puis, à 7h sonnante, une avancée au pas de course à travers les salles encore désertes, des galeries vaticanes peuplées seulement de statues, des escaliers, des couloirs, encore des escaliers, une courte attente. Entrez, nous dit-on enfin, la chapelle est à vous pour une heure. Fascinante, inoubliable expérience que cette découverte idéale d'un haut lieu le plus souvent bondé de visiteurs et qui, de si bon matin avant l'ouverture, nous offre son volume réel. Pas très impressionnant d'ailleurs, 40 mètres sur 13, une hauteur de 21 mètres sous plafond. Et quel plafond ! Les fresques là-haut sont caressées seulement par le jour naissant. Elles sont vives, certes, depuis leur restauration, si commentées et si controversées dans les années 80. Surtout, elles sont plus belles encore, plus fortes, plus fraîches, plus vivantes que tout ce que j'avais pu me figurer à travers les reproductions qu'en offrent imparfaitement les innombrables livres d'art qu'on leur a consacrés. Ainsi donc. Voici le chef-d'œuvre de Michel-Ange, que dis-je, le chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, peut-être, diraient certains, le chef-d'œuvre de l'art occidental. Ce plafond peint de prophètes et de sibylles, d'ancêtres du Christ, de la célèbre création d'Adam au centre et de scènes tirées de la Genèse et du Livre des Rois, ce plafond orné des plus beaux nus jamais conçus de main d'homme a été commandé à Michel-Ange par le pape Jules II en 1508 et inauguré 4 ans plus tard par le même souverain pontife qui était tout à la fin de son règne, le 31 octobre 1512. 31 octobre 1512, c'est facile à calculer, il y a 500 ans jour pour jour. Un demi-millénaire pour cette œuvre qui, au propre comme au figuré, n'a pas pris la moindre ride. Un demi-millénaire d'ébahissement ininterrompu de tous ceux qui, cardinaux ou simples voyageurs, se sont laissés frapper, happer, séduire, emporter par le génie du maître. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Retournez-vous là-bas au fond, dans la semi-pénombre, cette gigantesque fresque derrière le maître-autel, c'est le jugement dernier que le même Michel-Ange, à la demande cette fois du pape Clément VII, est venu peindre 25 ans plus tard dans sa maturité. 200 mètres carrés d'un tour de force picturale qui, s'il est moins évident, moins accessible peut-être que la voûte, constitue le testament du peintre, comme les esclaves du Louvre sont ceux du sculpteur. Fascinante assemblée de plus de 400 personnages dénudés, offrant qui son extase, qui ses tourments à la contemplation méditative des siècles. La chapelle Sixtine nous offre son décor vieux de 5 siècles. Elle est bien davantage qu'un conservatoire du don incomparable de Michel-Ange pour la fresque. Elle est le fruit d'une haute civilisation, le témoin d'un inconcevable talent, d'une élévation morale et esthétique. Elle est, si l'on veut, le creuset de notre monde aujourd'hui si fané. Alors, que personne ne s'y trompe, ce n'est pas elle qui attend de nous des hommages dont sa réputation n'aurait que faire, c'est nous. C'est nous qui devrions attendre d'elle un enseignement qu'elle n'a jamais cessé de délivrer à tous.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, nous célébrons les 500 ans de la chapelle Sixtine en compagnie de votre invité Franck, Serge Legac, qui est historien d'art et conférencier des musées nationaux.
Bonjour Serge, merci d'être venu nous faire profiter de vos lumières sur cette renaissance italienne qui n'en finit pas de nous ébahir. La chapelle Sixtine a 500 ans. Alors non, pas la chapelle, puisque la chapelle a été un peu plus ancienne. Elle avait été construite pour le pape Sixte IV au départ.
Effectivement, la chapelle Sixtine, comme son nom l'indique, dépend du pape Sixte IV. L'habitude est toujours de donner ses noms dépendants du nom du pontife.
Et on disait aussi bien la chapelle de Sixte que la chapelle de Sixtine.
Tout à fait, tout à fait. On dit même plutôt la chapelle de Sixte au départ. C'est nous qui avons pris l'habitude de dire Sixtine à l'heure actuelle. Et c'est effectivement ce pape qui fait construire cette chapelle à partir de 1475. Et elle est terminée dans son architecture et son premier décor en 1483.
C'est-à-dire qu'au moment où Michel-Ange va devoir s'attaquer à cette voûte en 1512, c'est déjà un bâtiment qui a trouvé tout à fait non seulement sa plénitude, mais son utilité au sein du Vatican. Alors on va y revenir tout à l'heure évidemment à cette chapelle Sixtine, mais j'aimerais que nous revenions d'abord sur la vie et notamment sur l'enfance de ce génie des génies, de ce Michelangelo Buonarroti. De quelle famille est-il ce Michel-Ange ?
Alors Michel-Ange tout d'abord est né à côté de la ville d'Arezzo. Il est né dans une petite ville qui s'appelle Caprese. Il est né en 1475 et Arezzo, Caprese, c'est une cinquantaine de kilomètres de Florence, donc on est déjà dans l'orbite florentine. Et Michel-Ange est issu d'une famille qui est une famille de notables.
C'est bizarre, hein, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le mythe habituel du petit pauvre qui se retrouve entré comme apprenti dans une bottega, etc. Lui, il est issu d'une, disons, une très bonne famille.
Ah, il est issu d'une très bonne famille. On pourrait même dire, en prenant plutôt une image française, une famille presque à prétention nobiliaire. Voilà. On est dans un monde très favorisé.
Et évidemment, très tôt vont se manifester des dons qui ne font pas forcément plaisir à la famille en question.
Tout à fait, mais Michel-Ange aura quand même la chance, puisqu'à l'époque, surtout dans le monde florentin, l'art n'est pas du tout considéré comme une profession négative. Au contraire, il y a un statut des artistes à Florence, et Michel-Ange aura la chance de pouvoir venir justement dans un des plus grands ateliers florentins. En 1488, il commence, il a 13 ans à peu près, sa première formation.
Alors c'est quoi cet atelier ?
Alors c'est un atelier étonnant, c'est l'atelier du peintre Domenico Ghirlandaio. Et Ghirlandaio fait vraiment partie de ces artistes qui dirigent ces ateliers immenses, avec énormément d'apprentis, une sorte d'usine à peinture tout à fait étonnante.
Alors, Domenico Bigordi, on l'appelait il Ghirlandaio parce que justement, il avait cette espèce de... Il avait une sorte de talent particulier, spécifique.
Tout à fait, il avait ce talent pour représenter cet art très enjolivé.
Enjolivé,
avec ces sortes de guirlandes également, qui donne ce surnom un peu particulier au talent de l'artiste.
Alors, le jeune homme qui entre dans son atelier se révèle essentiellement fasciné par la sculpture, il faut dire.
Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle Michel-Ange reste relativement peu dans l'atelier de Domenico Ghirlandaio. Il est tout de suite appelé vers un atelier alors tout à fait étonnant, qui est un atelier de sculpture en plein air, qu'on appelle le jardin de Saint-Marc, jardin puisque atelier en plein air. Et c'est un atelier dirigé par un sculpteur qui est un sculpteur assez secondaire, Bertoldo di Giovanni. Mais ce qui est admirable et merveilleux pour Michel-Ange, c'est que si Bertoldo est un sculpteur de second ordre, il est un élève de Donatello. Et évidemment, pour Michel-Ange, c'est le contact à travers Bertoldo de la grande, grande tradition de la statuaire florentine du XVe siècle.
Et très vite, il est repéré par un haut personnage de Florence. Ça, c'est assez fascinant. Alors, est-ce que l'anecdote racontée par Vasari est authentique? Je ne sais pas. Mais Vasari raconte que Laurent le Magnifique en personne se promène à l'académie où cet élève vient de faire une tête, hein, il vient de sculpter une tête.
Absolument.
Et le protecteur de Florence trouve ça extraordinaire. Donc il va l'accompagner, en fait. Il va le faire venir avec lui jusqu'au palais.
Et il le protège. Et effectivement, il y a cette protection tout à fait étonnante de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, qui va s'intéresser à ce très très jeune garçon qui montre un talent exceptionnel pour la statuaire. Et on raconte évidemment, alors là, avec tout ce que Vasari peut évidemment rajouter comme anecdote plus ou moins vraie, soyons francs, mais Laurent le Magnifique protège le jeune Michel-Ange. Et on sait que Michel-Ange est même logé au palais Médicis, le vieux palais Médicis, et Michel-Ange sera reçu à la table des Médicis, ce qui montre encore une fois l'étonnant rapport des artistes et des commanditaires à l'époque.
Alors si l'on en croit Vasari et quelques autres chroniqueurs, il semblerait bien qu'à cette époque, Michel-Ange ait copié la plupart des antiques des collections de l'Académie Médicis de Florence. Or, on ne possède, à l'heure où je vous parle, aucun aucune de ces copies identiques faites par le tout jeune Michel-Ange. Quand je dis on n'en possède aucune, pour être tout à fait honnête, moi j'ai l'idée d'une d'entre elles, je crois savoir où elle se trouve, mais enfin, ça n'est pas du tout officiel et ça n'est pas du tout reconnu. Donc pour l'instant, ça reste un peu un mystère. C'est un peu une zone d'ombre dans la longue carrière de ce maître.
C'est une véritable zone d'ombre, comme on en connaît d'ailleurs beaucoup pour ces artistes de la haute Renaissance. Entre le mythe et la réalité, il y a évidemment toujours une frontière difficile à définir. Et c'est vrai que pour Michel-Ange, toute cette œuvre de jeunesse qui serait basée effectivement, comme vous venez de l'indiquer, sur des copies, reste une œuvre totalement théorique. Pratiquement parlant, on n'a pas vraiment de témoignages. Mais ça montre déjà une chose, c'est l'intérêt de Michel-Ange pour la statuaire et pour l'Antiquité. Deux choses qui vont se confirmer d'ailleurs dans son œuvre de sculpteur, mais également dans son œuvre de peintre, où on retrouvera ses références aussi bien antiques que sculpturales.
Avec une vigueur absolument extraordinaire, une vitalité des sculptures tout à fait fascinante, que ce soit la Pietà de Rome, que ce soit le très célèbre David qui est devant le Palazzo Vecchio de Florence. On est fasciné par la palpitation de ce marbre qui a l'air plus vivant que nature.
Mais Michel-Ange disait qu'une sculpture n'était aboutie et réussie que quand on sentait la vie à l'intérieur de l'œuvre. Et il critiquait d'ailleurs, parce que Michel-Ange n'était pas tendre pour les autres artistes autour de lui, et il critiquait chez certains sculpteurs justement cette absence de vie palpitante, trouvant que l'on avait une enveloppe, mais qu'on n'avait pas d'esprit à l'intérieur de l'œuvre et pas ce sentiment de la vie qui sera si caractéristique de l'artiste.
Alors pour l'instant, on est à Florence. Comment Michel-Ange arrive-t-il à Rome, et quand je dis à Rome, c'est carrément à la cour pontificale. Comment cet homme-là en vient-il à travailler pour le pape en personne, qui quand même est le grand commanditaire de l'époque, disons-le.
Et là, il faut tout simplement revenir à l'histoire florentine, et ça n'est pas à vous, Franck, que j'apprendrai cela, mais bien évidemment, n'oublions pas le changement qui s'opère à Florence après la mort de Laurent le Magnifique. Laurent le Magnifique meurt en 1492, et bien évidemment, un certain Savonarole va commencer à faire de plus en plus parler de
cette
lui.
Une espèce de personnage, de prêcheur, hein, Jérôme Savonarole, qui prêche une sorte de société ultra austère, qui va embrigader l'enfance et la prime jeunesse de Florence pour aller tuer les bourgeois. Hein. C'est vraiment ça l'idée.
Et qui touche effectivement. Alors on est entre un monde très paradoxal, puisque Savonarole, c'est à la fois un côté très fanatique, bien
fanatique,
évidemment.
Voilà, voilà le mot.
En même temps, aussi, jouant l'avocat du diable, un côté démocratique, puisqu'il considère que certaines familles florentines ont un peu confisqué.
Une forme de communisme, même.
Exactement, tout à fait. On est dans un monde assez totalitaire, d'ailleurs, et ça sera le cas. Et Savonarole imposera une sorte de dictature pendant 4 ans, de 1494 à 1498, ce qui implique le départ des Médicis. Les Médicis sont chassés de Florence à ce moment-là, et Michel-Ange, qui était soutenu par cette famille, va quitter Florence, et va d'ailleurs séjourner dans différentes villes, Venise, Bologne, et puis on le retrouvera à Rome en 1496.
Pour notre plus grand bonheur et pour le bénéfice de cette chapelle Sixtine à laquelle nous venons dans un instant, Serge Lega est ici. Profitez-en, posez les questions qui vous viennent à l'esprit à propos de Michel-Ange, à propos de la chapelle Sixtine et d'une façon générale à propos de tous les arts de la Renaissance.
Réalisation de Michel-Ange est un extrait de la bande originale de L'Extase et l'Agonie. C'est un film de Carol Reed de 1965 avec Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange sur une musique composée par Alex North.
Alors, contrairement aux fresques de Michel-Ange, on peut dire que ce film a vieilli. Hein. Je l'ai revu il y a quelques temps. Il y a même des scènes qui font franchement rire. Mais en même temps, c'est un beau film qui a été fait avec de grands moyens et qui permet de partager cette espèce de fièvre qui a été celle de ce grand créateur et de ses conflits également, partager ses conflits avec le pape Jules II, parce que c'était deux caractères impossibles, il faut le dire, Serge Lega.
Alors deux hommes totalement étonnants, deux hommes puissants, le pape Jules II, issu de la puissante famille des Della Rovere, et ce qu'on pourrait appeler un condottiere, c'est un homme de guerre.
Oui, c'est un chef de guerre, un personnage terrible d'ailleurs.
On avait une très jolie formule, on disait que c'était un pape qui avait jeté les clés de Saint-Pierre pour garder l'épée de Saint-Paul, ce qui montre évidemment à quel point sur les deux grandes bases base de la religion, son choix était évident. Donc un pape tout à fait violent, un pape militaire au sens premier du terme, avec un caractère tout à fait à la hauteur de celui de Michel-Ange. Et il y a eu des empoignades absolument homériques entre le pape et l'artiste.
Alors justement, il faut peut-être dire un peu à quoi ressemblait Michel-Ange, parce que vous dites un caractère à la hauteur de celui de Michel-Ange, c'est qu'en fait, le personnage est un personnage assez impossible. Il a un caractère... J'avais son portrait par Vasari, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, mais enfin, on va
je
le décrire. Il était... c'est quelqu'un qui, d'abord, au physique, n'est pas très avantagé, il faut le dire.
Il est même franchement laid, et il portera sa laideur comme une punition.
Et voilà.
Puisque Michel-Ange est un néoplatonicien pour qui la beauté est le but à atteindre. Et Michel-Ange considérait même que la beauté était la preuve ultime de l'existence de Dieu. Lui-même se sentant laid, dès le départ, il y a un conflit.
Et il a une fascination pour la beauté, et disons-le, pour la beauté masculine. Il est entouré de beaux jeunes gens qui lui font littéralement tourner la tête. C'est un éternel amoureux, Michel-Ange.
C'est un amoureux, sans aucun doute... Enfin, toujours difficile de le savoir, mais sûrement un amoureux très platonique en tant que tel, puisqu'on sait que par ailleurs, Michel-Ange est profondément religieux et que justement, cette attirance pour le corps de l'homme est sûrement quelque chose qu'il a vécu très 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 difficilement.
Qu'il a transcendé dans son art.
Absolument.
Hein.
C'est l'art qui lui permet cette sorte d'union charnelle avec les modèles qu'il regarde. Mais c'est sûrement à travers la peinture, à travers la sculpture, qu'il peut posséder ces corps que sans aucun doute, il n'a pas vraiment possédé dans la vie réelle.
Alors lui se vit, même s'il écrit d'ailleurs de très beaux sonnets pour certains de ces jeunes hommes dont il est fou, en vérité, il se considère d'abord comme un sculpteur. Ça tombe bien puisque le pape commence par lui commander des travaux de sculpture.
Le travail de Michel-Ange est effectivement un travail pluridisciplinaire, comme toujours à l'époque. Il est architecte, il est peintre, il est sculpteur, mais il se veut avant tout sculpteur. Et c'est vraiment sa passion première. C'est au fond la spécificité de Michel-Ange. Revendiquer un art considéré pour lui comme plus important que les autres. Et effectivement, quand il revient à Rome pour la deuxième fois, puisqu'il était venu une première fois de 1496 à 1501, puis il revient à Rome à la demande du pape Jules II en 1505, et le pape le fait venir pour réaliser le futur tombeau du pontife. Donc Jules II demande à Michel-Ange son tombeau, à ce sculpteur. Michel-Ange est fou de bonheur, c'est tout ce qu'il aime.
C'est formidable.
Et puis c'est l'œuvre par excellence, c'est un tombeau sans aucun doute monumental, nous n'avons aucun dessin du premier projet, donc là aussi on est tout à fait soumis à des suppositions, à des conjectures, mais pas de certitude, et c'était sûrement un monument à la fois d'architecture, associant la monumentalité et un décor de sculpture extrêmement riche.
Alors ce tombeau, il le fera, mais plus tard et pas dans les mêmes conditions. Finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau de Jules II, c'est pas tout à fait la même chose.
Michel-Ange dira que c'est le drame de sa vie, que c'est la tragédie de sa vie. Et c'est quand même extraordinaire, puisqu'il commence le projet du tombeau en 1505. Le tombeau est réalisé en 1545. 40 années de la vie d'un artiste pour un projet qui est une déception totale puisque le projet final n'est même
inachevé,
pas
d'ailleurs.
Absolument. Et il n'est même pas à l'endroit prévu puisque le tombeau du pape devait être à Saint-Pierre de Rome. Ce qui était logique,
normal.
Il sera tout compte fait dans une autre église, qui est l'église Saint-Pierre-Olien à Rome, qui est une église évidemment moins prestigieuse que ne l'était la basilique Saint-Pierre.
Alors, notre Michel-Ange s'attaque à ce chantier, il est en train de sculpter le tombeau de Jules II, etc. Et puis finalement, Jules II va lui commander tout autre chose. Et ce n'est pas dans le domaine de la sculpture qu'on lui demande de s'exprimer, mais dans celui de la peinture. Au début, il refuse. Purement et simplement.
C'est même tout à fait pour lui une sorte de répulsion par rapport à cette commande. Et alors, chose absolument extraordinaire, c'est que la commande est passée pour le fameux tombeau dont on vient de parler, et pratiquement tout de suite, le pape arrête le projet. Ce qui déjà, pour Michel-Ange, est une incompréhension totale. Et à la place, pourrait-on dire, même si pour Jules II, ça n'est pas du tout, il n'a aucune obligation par rapport à l'artiste.
Oui, c'est pas pour le dédommager.
Absolument pas, ça serait une lecture trop moderne des choses. Et Jules II va commander cette voûte de la chapelle Sixtine, que Michel-Ange ne veut absolument pas faire. On a des textes tout à fait étonnants où Michel-Ange se déclare sculpteur, ne veut pas cet ensemble de fresques et dit qu'il préfère qu'on lui donne n'importe quelle autre commande de sculpture à l'époque plutôt que ce décor de fresques.
Alors c'est le grand plafond donc qui fait 40 mètres sur 13-14 de cette chapelle Sixtine qui est légèrement voûtée, qui est percée sur les parties basses de grandes verrières et alors surtout qui est à l'époque pas décorée. décoré du tout. Il y a juste des petites étoiles dorées, c'est ça?
Ah oui, on avait choisi un parti pris à l'époque de Sixte IV, extrêmement modeste, ce que l'on faisait dans beaucoup de chapelles, puisque décorer une voûte est toujours un problème, ne serait-ce que technique, et on choisissait souvent de faire un ciel bleu avec des petites étoiles dorées. C'est exactement ce qu'était le premier décor de la première chapelle Sixtine, commencée par Sixte IV.
Il arrive assez souvent que je dise quel dommage qu'on ne le voit plus, on aimerait bien voir comment c'était avant, mais là, franchement...
Pas de regret, pas vraiment de regret.
Quand on voit ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, on ne regrette pas du tout les petites étoiles dorées de la première chapelle de Sixte IV.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui revient maintenant sur le chantier de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine, Franck.
Pourquoi pas Raphaël, a dit Michel-Ange. Après tout, il sait faire, lui, c'est son travail. Raphaël a assez de travail avec les stanzers, répondit le pape. Mais c'est son métier, moi je suis sculpteur, je ne suis pas peintre, s'insurge Michel-Ange. Ah bon ? C'est-à-dire que si vous pensez que Raphaël était disponible, vous n'accepteriez pas le chantier, lui demande le pape. Et là, quand même, Michel-Ange est touché au vif, touché dans son amour-propre, et il va accepter cette commande du pape Jules II. Alors au départ, le pape avait l'intention de faire peindre seulement les motifs au centre de la voûte, mais évidemment, puisqu'il prend le chantier, il le prend à bras-le-corps, Michel-Ange dit qu'il peindra tout, jusqu'aux fenêtres incluses. Et il fait commencer par faire démolir l'échafaudage de Bramante, car Bramante avait commencé un premier travail. Il avait fait installer un échafaudage qui était suspendu au plafond par de grosses cordes, et ces cordes étaient passées par des trous dans le plafond. Alors quand on demande à Michel-Ange pourquoi il veut faire démolir l'échafaudage, il dit « Mais qu'est-ce que je vais peindre dans les trous » dit-il. Alors il fait démolir cet échafaudage, on rebouche avant les trous, hein, le plafond est remis bien en état, et c'est un gros échafaudage qui est installé depuis le sol, avec un grand vaste plancher, très pratique du reste, qui suit la voûte et qui est très proche de la voûte, hein, puisqu'on dit que quelqu'un de grand ne pouvait s'y tenir tout à fait debout, vous voyez, donc c'était vraiment, on était tout prêt, on pouvait travailler comme ça directement. C'est le 10 mai 1508 que Michel-Ange monte sur cet échafaudage et, si j'ose dire, il va y rester pendant 4 ans. Alors au début, il n'est pas tout seul, il est là avec toute son équipe, il a ses aides, il a tous les gens qui l'aident autour, qui font les tracés, etc. Et puis très vite, ce bavardage incessant, les ricanements dans les coins, le grincement du plancher, tout ça l'agace. On vous l'a dit avec Serge, c'est un personnage qui a un tempérament terrible, un caractère très dur. Il fait descendre tout le monde, il veut être seul. Seul face à cette immense surface. Et il se rappelle bien sûr les leçons qu'il a apprises jeune dans la Bottega de Ghirlandaio, qui était un peintre. Et quel peintre! Il a vu peindre également l'Indaco. Il sait comment on fait. Alors il va rester sur l'échafaudage seulement avec un maçon, qui évidemment lui prépare les couches de mortier, car c'est une peinture à fresque. C'est-à-dire qu'on peint directement dans le plâtre, si vous voulez, qui est encore frais, qui n'est pas encore sec. Et puis un apprenti quand même pour préparer les couleurs. Et les grandes figures, parce que tout ça est peint à 3, 4, 5 fois la dimension naturelle, les grandes figures commencent à naître sur cette voûte extraordinaire de la chapelle Sixtine, quand, après plusieurs semaines, une petite couche de chancis, une espèce de moisissure, un petit champignon blanc verdâtre, commence à se répandre sur la voûte et à dévorer les couleurs. Et ça, pour Michel-Ange, évidemment, c'est un désespoir, c'est une horreur. Il descend de l'échafaudage, complètement défait, et il promet qu'il n'y remontera jamais. Alors bien sûr, le pape est informé, Jules II convoque son artiste. Et là, que peut faire Michel-Ange, sinon avouer son échec au pape ? Et Jules II, on vous l'a dit, n'est pas un personnage facile, hein, c'est un chef de guerre. Alors il est partagé entre la colère contre cet artiste qui baisse les bras aussi facilement, et puis la pitié, l'envie quasiment de le consoler. Finalement, il va s'instaurer entre ce vieux pape et cet artiste encore jeune, une relation quasi filiale. C'est un peu le père qui va soutenir le fils dans cette histoire. En attendant, le pape ordonne à Michel-Ange de remonter sur l'échafaudage, et il lui envoie pour l'aider son architecte personnel, Sangallo, qui arrive et qui se rend compte très vite que le seul problème est un problème de taux d'humidité de la chaux. La chaux qu'on utilise est trop liquide et en fait c'est ce qui a fait cette moisissure. Seulement en réparant les dégâts Et en préparant les nouveaux enduits, Sangallo découvre la splendeur de ce qu'a pu faire Michel-Ange. Il est médusé par la beauté d'une œuvre telle qu'on n'en a encore jamais vue. Et bien sûr, ça réconforte l'artiste. Alors on reprépare une couche de chaux, beaucoup plus sèche. Et cette fois, Michel-Ange va devoir travailler à la diable, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a extrêmement peu de temps. Il faut que le premier coup de pinceau soit le bon. Et ça, c'est comme dans la sculpture, vous savez, le geste irrémédiable. Aucun repentir possible, aucune marche arrière envisageable. C'est un véritable défi qui s'offre à Michel-Ange. Ça tombe bien, les défis, il adore ça. Il se lance dans ce travail de longue haleine, un travail de plus en plus difficile pour lequel il n'a même plus droit à la moindre erreur. Le ciel de la Sixtine va peu à peu se peupler de ces grandes figures d'une force, d'une beauté, d'une grâce aérienne.
Extrait de la Missa Papa et Marcelli de Palestrina, Franck.
J'emprunte les lignes qui suivent au regretté Marcel Brion. Parfois, tandis que l'artiste était ainsi occupé, on entendait au pied de l'échafaud une voix grondeuse qui appelait Michel-Ange. Le peintre s'interrompait alors avec un juron, se levait, faisait craquer ses articulations raidies et regardait par-dessus la balustrade de bois. Une figure de vieillard, vêtue de blanc, ramassée sur elle-même, marchait impatiemment dans la chapelle. Dès qu'il avait reconnu le pape, Michel-Ange s'empressait de descendre et aidait le visiteur à gravir les escaliers qui conduisaient à la plateforme. Généralement, le pape commençait par se plaindre que le travail n'eût pas avancé davantage, alors que Raphaël peignait si vite, lui. Oui, mais Raphaël était entouré d'une foule d'élèves qui peignaient en même temps que lui. On va vite dans ces conditions. Peu à peu, Jules II se rassérénait à mesure qu'il découvrait ces choses merveilleuses qui étaient nées depuis sa dernière visite, un visage d'enfant rieur, une colossale musculature d'athlète, un vieillard majestueux qui planait dans l'espace comme un formidable oiseau. Il ne voyait que des morceaux de tout cela, ce que l'œil pouvait distinguer lorsqu'on touchait la voûte de ces géants qui avaient 3, 4, 5 fois la taille d'un homme. Le plus souvent, il ne distinguait qu'un fouillis de touches et de traits et qui était en réalité d'une minutieuse et précise exactitude. Il bavardait un moment avec l'artiste, secouait sa longue barbe blanche avec un air d'irritation comique et grommelait « Bon, travail, fils, travail !» Puis il redescendait les raides échelles après avoir béni le peintre d'un geste solennel et tendre de sa vieille main. C'est un travail qui s'apparente, disons-le, à un véritable calvaire pour Michel-Ange qui, encore une fois, travaille seul. Alors c'est vrai que Raphaël, lui, travaillait toujours entouré de toute une troupe. D'ailleurs, Michel-Ange l'avait surnommé le capitaine parce qu'il était à la tête de toute une équipe. Moyennant quoi, Raphaël, apprenant ça, avait dit « Oui, moi je suis entouré, mais lui est seul comme le bourreau », avait-il dit. Les modelés de Raphaël, les carnations plus que réelles, le drapé chatoyant de chacun des personnages dont il orne cette extraordinaire voûte, tout ça est magnifique, bien entendu. Ce très long travail se fait dans une solitude et dans une sorte de secret qui, évidemment, excite la curiosité de tout le monde. « Quand comptes-tu finir ?» lui demande un jour le pape. « Quand je pourrais ? Quand je pourrais ? Quand je pourrais ?» Et on dit que le pape Jules II a, ce jour-là, cassé sa canne sur le dos de Michel-Ange qui rentre chez lui furieux, fait préparer ses meubles, veut quitter Rome et à ce moment-là, au moment où il allait partir, un camérier du pape se présente avec 500 ducats que Michel-Ange fourre dans sa poche sans même remercier. 500 ducats, c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais aussi avec les excuses du pape et sa supplique de revenir à la chapelle. Alors Michel-Ange va remonter sur son échafaudage, mais cette fois plus question qu'on le dérange. Il faudra quand même, une fois, défaire l'échafaudage parce que le pape et la curie viendront voir l'ensemble de l'œuvre et le moins qu'on puisse dire, c'est que la splendeur de cette œuvre encore inachevée et qu'ils sont les premiers à découvrir va les rassurer tout à fait sur l'avenir de la chapelle Sixtine.
Europe 1,
le récit de Franck Ferrand.
Et nous sommes au cœur de la création des fresques ornant la voûte de la chapelle Sixtine, un défi que s'est lancé Michel-Ange.
Et oui, et c'était le 19 septembre 1510 qu'on a ôté l'échafaudage pour permettre au pape et à sa suite de constater, bouche bée, l'état général de cette voûte qui était vraiment en train de prendre tournure, ces figures formidables, tourbillonnantes. Aujourd'hui, tout ça nous paraît très beau. À l'époque, on était simplement fracassé par la nouveauté de ce que créait Michel-Ange. C'est-à-dire que tout ça n'est pas construit en trompe-l'œil, vous voyez, on n'a pas fait des faux aperçus sur un faux ciel. On a, enfin quand je dis on a, le maître a créé un autre espace, un ciel à lui en quelque sorte, un espace en trois dimensions dans lequel l'œil est irrésistiblement aspiré. Alors après le départ du pape, on a rebâti très vite l'échafaudage et Michel-Ange est remonté là-haut tout seul pour son face-à-face avec l'espace à peindre, qui est sans doute aussi un face-à-face avec lui-même et, comme nous l'a laissé entendre Serge tout à l'heure, un face-à-face avec Dieu, car c'est un homme pétri de religion que cet artiste-là. Il peint ses sibylles, ses prophètes et tout ce monde-là est agité. Quand je dis agité, non, est animé, comme mu de l'intérieur par la force divine. C'est dans les premiers jours d'octobre 1512 que l'échafaudage est enlevé. Alors cette fois pour la deuxième fois et définitive. Et alors là, tout le monde défile et c'est l'extase universelle. Le pape est enthousiaste. Il voudrait maintenant que Michel-Ange s'attaque aux grandes compositions murales parce que là, pour l'instant, il n'a fait que la voûte. Alors il y a tous les murs à faire de part et d'autre de la chapelle, de la nef, si l'on peut dire. Seulement, Michel-Ange n'en peut plus. Il a besoin de repos. Vous savez, on dit qu'il a été... C'est Candivi qui raconte ça. Il dit que Michel-Ange a été tellement habitué pendant toutes ces années à regarder en l'air, à avoir la tête levée, qu'il n'arrivait même plus à voir correctement lorsqu'il regardait vers le bas. On peut dire que toute sa vision avait été transformée. Les derniers mots sont encore à Marcel Brion. « Brisé de corps et d'âme », écrivait l'académicien, comme s'il avait traversé un cyclone. Il s'était étourdi, ébloui, ainsi que l'était Dante remontant de l'enfer. Il avait... contempler face à face le visage de Dieu, il en était resté aveuglé. Fascination universelle pour le travail de Michel-Ange dans cette chapelle Sixtine. Souvent, les nouvelles œuvres sont critiquées, commentées, diversement appréciées. Ça n'a pas été le cas cette fois, Serge Legat.
C'est un enthousiasme général. C'est tout à fait la vision étonnante. Et on a même des témoignages assez surprenants, puisque pendant la réalisation de cette étonnante voûte, on est certain qu'effectivement, quelques rares personnes pouvaient avoir accès à ce chantier. Et on pense d'ailleurs que même Raphaël a pu voir peut-être secrètement le travail de Michel-Ange, ce qui expliquerait d'ailleurs une chose assez surprenante, puisque Raphaël et Michel-Ange ne s'entendaient pas, comme la plupart des artistes avec Michel-Ange, oui, toujours les rivalités. Et en fait, quand Raphaël peint l'école d'Athènes dans la chambre de la signature, qui est juste à côté de la Sixtine, il représente à la dernière minute le grand philosophe Héraclite, et qui est sans aucun doute un portrait caché de Michel-Ange.
Alors qu'il n'avait pas du tout prévu
de placer ni Héraclite, ni bien sûr Michel-Ange, mais devant la beauté de la voûte de la Sixtine, in extremis, Raphaël lui-même est obligé de reconnaître le talent de Michel-Ange en rajoutant cette figure.
Hommage. Alors, cette rivalité entre Michel-Ange et Raphaël, elle est évoquée en ce moment dans une exposition qui se tient au musée du Louvre. On en parlera, on en dira un mot tout à l'heure. La technique employée par Michel-Ange ne permettait aucune erreur. Il fallait aller d'emblée à l'essentiel. Une fois que le trait était posé, il était définitivement là.
Comme vous l'avez très bien dit, Franck, tout à l'heure, effectivement, c'est un travail a fresco, c'est-à-dire sur le frais, qui donne fresque en français, et qui ne perd donc aucune erreur. On ne peut pas modifier une composition. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'on est certain d'une chose, c'est que toute la voûte est peinte a fresco, mais Michel-Ange, comme la plupart des artistes de l'époque, fait des retouches une fois que l'œuvre est terminée à secco, c'est-à-dire qu'on rajoute.
Comme s'il peignait là.
Absolument.
Alors
c'est toujours des détails qui sont au noir de charbon, et c'est-à-dire qu'on rajoute des petits traits qui donnent l'expression
d'un sourire, d'un regard,
d'une expression farouche. Et c'est d'ailleurs le grand débat autour de la restauration des années 1980.
Alors Vous êtes quelqu'un de tellement poli, Serge Legac, qu'évidemment vous n'osez pas aller au bout de ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que vous laissez entendre, c'est qu'au moment où l'on a restauré cette merveilleuse voûte dans les années 80, donc de 82 à 87 essentiellement, ça a été fait grâce à la NHK d'ailleurs, la télévision japonaise, qui a financé cette restauration, il semblerait que les restaurateurs aient un petit peu oublié ce qui avait été peint à Seco.
Et c'est le grand débat sur cette restauration, c'est-à-dire que ceux qui sont favorables à la restauration considèrent qu'on retrouve Michel-Ange dans toute sa pureté, sans les rajouts qui ont été faits au siècle suivant, les repeints, et ceux qui sont plus dubitatifs, et alors je vais laisser ma politesse de côté pour reconnaître que je fais partie de la deuxième catégorie, bien effectivement, quand on regarde des dossiers avec des macrophotographies, on voit très bien que certains visages ont changé d'expression, que les yeux n'ont pas forcément le même sens au niveau du regard.
Ils sont moins fiévreux,
absolument,
part, hein.
Qu'il y a des
tout
changements.
Tout est plus apaisé aujourd'hui.
Et qu'on aurait donc en fait l'œuvre à fresco, mais qu'on n'aurait plus les retouches à secco, qui étaient donc de la main de Michel-Ange.
Aïe, 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 malheureusement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Michel-Ange n'en a pas terminé avec la chapelle Sixtine. Quelques années plus tard, il va revenir à Rome, revenir à la Sixtine, et il va enfin, bien après la mort de Jules II, du reste, réaliser le grand, alors là, le grand mur du fond, qui représente, alors c'est une immense composition, 400 et quelques personnages, Le Jugement Dernier.
C'est l'œuvre peut-être la plus étonnante qu'on puisse imaginer. C'est le mur d'autel qui est sur ce thème du Jugement Dernier, commandé vraisemblablement par le pape Clément VII, mais c'est le pape Paul III qui sera lui présent lors de l'inauguration le 18 novembre 1541. Et le Jugement Dernier, c'est un Jugement Dernier terrifiant. C'est un Jugement Dernier sans beaucoup d'espoir. On voit un Christ qui est un Christ de jugement terrible, puisqu'on parlait d'ailleurs toujours de ce terme tout à fait particulier. On disait toujours de Michel-Ange, la terribilitas de Michel-Ange, le côté terrible. Raphaël,
implacable.
C'est l'élégance, c'est le raffinement. Michel-Ange, au contraire, c'est la force, c'est la violence. Et le Jugement Dernier, c'est un Jugement Dernier tout à fait étonnant et qui, lui, va sidérer les contemporains et susciter des réactions négatives.
Des réactions négatives, notamment à cause du très grand nombre de nudités étalées, puisqu'alors là, c'est une espèce d'immense catalogue de nus, ce Jugement Dernier.
On aura même des phrases terribles. L'écrivain vénitien L'Aretin dira que ce Jugement Dernier a sa place dans une étuve ou dans un lupanar, mais pas dans une chapelle.
Et surtout une chapelle où se réunissait le conclave à l'époque pour élire le nouveau pape.
Toujours, c'est toujours le lieu du conclave, ça l'est depuis le début et c'est un des lieux symboliques évidemment de l'histoire du Vatican. Et ce mur va donc défrayer la chronique, ces nudités vont paraître choquantes, qui fera d'ailleurs que tout compte fait grâce à Paul III. L'œuvre sera quand même inaugurée, le pape Paul III apprécie beaucoup cette œuvre, mais les critiques sont tellement fortes que des années plus tard, on rajoutera des repeints de pudeur pour cacher les nudités des personnages qui sont représentés. C'est un élève de Michel-Ange, Daniele da Volterra, qui rajoutera ces repeints de pudeur et les Italiens qui ont beaucoup d'humour ont à tout jamais surnommé ce peintre Il Braghettone, puisqu'il a rajouté évidemment et des culottes et des éléments drapés pour cacher ces parties intimes qu'on ne pouvait accepter dans une chapelle.
Tout ça a été restauré, évidemment, tout ça a été rendu...
Pas du tout. Ça, c'est une très très bonne remarque parce que, justement, on a beaucoup critiqué la papauté de notre époque en disant, mais au fond, puisqu'on a restauré ce Jugement Dernier, on a dû enlever les repeints de pudeur. Mais il faut penser à une chose, vu l'immensité de ce mur, si Daniele da Volterra avait rajouté en surimpression de la peinture, on aurait eu l'impression d'une fresque constellée de cloques. Donc, ce que Daniele da Volterra a dû faire, c'est marteler l'œuvre de Michel-Ange pour que les repeints soient dans l'axe du mur. Donc, si on enlevait les repeints de pudeur,
on aurait du blanc.
Donc on les a gardés, mais pas du tout pour des raisons de pudeur, mais pour des raisons qui sont tout simplement
artistiques et techniques. On aurait des carrés blancs à la place sur ce grand Jugement Dernier de Michel-Ange. Dans un instant, nous parlons non seulement de Michel-Ange, mais aussi donc de son grand rival de l'époque et néanmoins admirateur, Raphaël.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et Michel-Ange est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1.
Michel-Ange et donc Raphaël, puisque en ce moment et jusqu'au 14 janvier se tient au musée du Louvre une exposition qui réunit les œuvres réalisées par Raphaël à Rome durant les 7 dernières années de sa vie. Vous avez là les grands retables, tout ce qui a préparé au grand décor avec les dessins préparatoires, les tapisseries, etc. Et puis les immortelles madones de Raphaël, bien entendu. J'imagine avoir vos approbations, Serge, que vous avez visité cette exposition.
Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est à mon avis une des très, très belles expositions de cette rentrée et qui montre justement aussi les étonnants rapports de Raphaël et de ses élèves dont on parlait tout à l'heure.
Et donc, avec son rival aussi, avec Michel-Ange. Nous avons en ligne Vincent Delieuvin, qui est chargé des peintures italiennes au Musée du Louvre et donc commissaire de cette exposition Raphaël, les dernières années. Bonjour Vincent Delieuvin.
Bonjour.
Merci de nous prendre au téléphone. Alors, vous avez réservé une place non négligeable à Michel-Ange dans cette exposition.
Dans l'exposition qui est consacrée à Raphaël, en fait, Michel-Ange est permanent, il est constamment présent dans les œuvres que l'on voit. C'est vraiment, d'une certaine façon, la référence principale de Raphaël dans ses dernières années. Mais pas la seule. Il y a
pas
d'autres
seule,
figures.
Non, hein,
on a Léonard de Vinci aussi qui est là, hein, parce qu'il arrive à Rome, il va s'installer à Rome entre 1513 et 1516. C'est vraiment un des grands moments de l'histoire de l'art où les trois génies sont à nouveau présents ensemble dans une ville. Mais la référence principale de Raphaël, on le sent, hein, dans tous ses dessins, dans ses tableaux, c'est Michel-Ange.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est la différence et de caractère, de nature, de méthode et de technique et de façon d'être entre ces deux personnages. Nous avons longuement parlé de la solitude de Michel-Ange. Au contraire, Raphaël aime à s'entourer pour sa part.
Raphaël, c'est vraiment une personnalité très, très solaire. C'est le gentilhomme, l'homme de cour.
Il est très agréable, très aimable.
Tout à fait. En plus, plutôt bel homme. C'est une sorte de réincarnation un peu en plus jeune de Léonard de Vinci, hein, qui d'ailleurs l'aimait beaucoup. Hein. Mm-hmm. Cet homme très agréable qui s'essaye à la poésie, qui aime la musique, qui s'entoure du monde, qui aime la communication avec les autres. Et évidemment, ça se sent dans son art. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non plus aux commandes, qui les accepte donc, qui en est d'ailleurs très heureux, hein, quand même. Et de fait, son œuvre, c'est une œuvre en grande partie conçue, exécutée avec un atelier très abondant. Hein. Raphaël, il sait que pour aller au bout des commandes qu'on lui passe, l'ensemble de ces commandes qui sont considérables, il faut s'entourer d'assistants qui vont l'aider dans l'exécution picturale, voire même de temps en temps dans certaines parties de l'invention des histoires.
Giulio Romano, Gianfrancesco Penni, ce sont des élèves de Michel-Ange et des assistants qui jouent un rôle important dans ces dernières années.
Giulio Romano et Gianfrancesco Penni, ce sont vraiment les deux principaux assistants. Mais il y en a d'autres, on les voit dans l'exposition. Raphaël a ce talent de reconnaître le génie de jeunes assistants, de jeunes maîtres. Il les prend à son service et il va vraiment leur confier des tâches bien spécifiques. Il y a par exemple un jeune homme qui s'appelle Giovanni da Udine, qui va être un spécialiste pour les décors végétaux, pour les animaux. Et chacune des parties dans des tableaux où il y aura représenté ce genre de choses, c'est lui qui les peindra. Giulio Romano, en revanche, lui, c'est vraiment l'assistant. Raphaël a reconnu que c'était le plus brillant, le plus grand peintre, celui qui savait manier le pinceau. Et c'est donc son bras droit, d'une certaine façon. Hein. Il va vraiment lui confier de plus en plus de choses. De temps en temps même, Raphaël va concevoir par le dessin des histoires, des scènes, mais c'est Giulio Romano qui peindra l'ensemble, qui peindra le tableau à la fin.
Merci beaucoup Vincent Delieuvin. Je rappelle donc que cette exposition Raphaël, les dernières années, se tient au Musée du Louvre. C'est très facile à trouver, là c'est sous le hall Napoléon, sous la pyramide, jusqu'au 14 janvier prochain. Merci beaucoup. Serge, on peut dire que ce Raphaël est un peu aujourd'hui passé au second plan, c'est étonnant. Pendant très longtemps, je pense aux années 1900, enfin on va dire au début du XXe siècle, dans les années 20 par exemple, je me promenais devant ma bibliothèque hier en regardant justement tout ce que j'allais pouvoir sortir pour préparer cette émission d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait énormément d'ouvrages, Raphaël était considéré comme la valeur absolue en quelque sorte. Et puis depuis, on a l'impression que bien sûr Léonard de Vinci, mais aussi Michel-Ange sont revenus un peu plus sur le devant de la scène. Ils plaisent davantage à notre époque, peut-être ?
C'est peut-être le défaut de notre époque. On aime les personnages moins solaires et peut-être plus dramatiques, comme le sont Michel-Ange, voire Léonard à la fin de sa vie. Raphaël est un personnage heureux qui meurt jeune, mais qui est entouré de beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et pourtant, les hommages sont importants autour de lui. La plus belle phrase, c'est la phrase de Goethe, qui disait de Raphaël, « Raphaël a toujours fait ce que les autres rêvaient de faire », qui est quand même le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Raphaël.
On a dit de Raphaël qu'il était un peu poète, Michel-Ange aussi l'était. Vous aviez d'ailleurs apporté quelques vers. Il a écrit des sonnets incroyables qui ont été réédités d'ailleurs il y a 2 ans. Et vous vouliez nous citer quelque chose de la main même.
Que je trouve très révélateur de cet aspect très sombre de Michel-Ange et de toute la dualité du personnage. Michel-Ange a écrit, je lis un très court fragment, « En telle servitude, en un pareil ennui ». plein de pensées d'erreur, avec mon âme en grand danger, sculptez chose divine. » Je pense que c'est un résumé parfait de Michel-Ange. Il parle de sculpture, il ne parle pas de peinture. Il explique les troubles de son âme. Il montre évidemment que son âme est en danger et que le but reste la sculpture et sculpter des choses divines, cet hommage à Dieu qu'il veut rendre.
Sculpter choses divines, c'est presque sibyllin. Ça pourrait presque faire penser à un contemporain. Je pense bien sûr à Nostradamus. J'en profite pour dire que ce soir, sur France 3, à 23h50, nous parlerons justement de Nostradamus. Donc, si vous avez été, grâce à cette émission, je l'espère en tout cas, plongé dans un bain de renaissance en ce début d'après-midi. J'espère que vous pourrez le rester jusqu'à ce soir et que vous suivrez nos pérégrinations sur les traces de Nostradamus. Merci beaucoup Serge Lecas. On n'a pas parlé de l'architecte. Il ne faut quand même pas oublier que la coupole de Saint-Pierre de Rome, c'est aussi Michel-Ange. Hein.
La place du Capitole, etc. Une partie du palais Farnèse à Rome. Effectivement, un autre talent.
Un immense génie. Merci beaucoup de nous en avoir parlé avec tout ce feu.